Québec. And Justice for All avec Maître Julien Boulian.
Radio X.
Vous pouvez le joindre au 542-8111.
Maître Boulian, bonsoir.
Bon après-midi. Bon, on va se donner encore un peu de,
ouais, okay,
un peu de,
ouais,
de délai.
Ouais, on va se donner une couple de semaines avant le changement d'heure. On va parler, ben, tout le monde parle de ce dossier-là. Jean-Léon Pinette-Hervieux, qui venait à peine de sortir de prison lorsqu'il a asséné, faut toujours être au conditionnel, il aurait frappé mortellement d'un coup de couteau sa victime, alors que le gars de Jonquière, qui est allé donner un coup de main pour faire des rénovations à des amis à Alma. Et ce qui a ressorti de ce dossier-là, on en a parlé d'ailleurs hier à PA, c'est que M. Jean-Léon Pinette-Hervieux avait bénéficié d'un rapport Gladue. On va tenter de se démêler parce que ça a mis des gens en colère sur les réseaux sociaux, le fait qu'il ait pu bénéficier de la clémence du juge en raison de ses origines qui sont autochtones. D'abord, ça remonte à quand l'arrêt Gladue qui débouche sur des rapports Gladue?
Je vais commencer par un petit aparté. Là. Oui. Tout d'abord, c'est ici au Saguenay, c'est très rare. Ça fait 12 ans que je suis criminaliste, puis c'est pour ça que ce qui suit, je prêche pas pour ma paroisse. Là, j'en ai jamais plaidé un rapport Gladue. Déjà représenté certains autochtones, mais ça s'est pas présenté. Puis il n'y a pas, dans des cas où ils se sont présentés devant le tribunal, j'ai pas senti que c'était nécessaire de demander un rapport Gladue, puis qu'on pouvait, soit avec les éléments qu'on avait au dossier, ou soit avec un rapport présententiel normal, atteindre les mêmes objectifs. Mais dans le haut du lac, on a vu en entrevue ce matin, dans le show du matin, Sébastien Talbot, qui travaille au bureau de Denis Otis, ils en font pratiquement toutes les semaines. Parce que dans le haut du lac Saint-Jean et aussi Chibougamau, les réserves entre les deux, il y a beaucoup de communautés autochtones et c'est une clientèle qui est malheureusement excessivement criminalisée. Donc, on revient à ça. Ça mange quoi, Gladue, en hiver? Ça vient de où? Fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusque dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il y avait une surreprésentation des Autochtones en milieu carcéral. Même encore aujourd'hui, je reviendrai sur les chiffres, là, où on parle de plus de 30 % des détenus pour 3 % de la population canadienne. Okay. Et dans certaines provinces, Manitoba, Saskatchewan, on parle de près de 80 % des détenus qui sont autochtones. C'est énorme. On s'est rendu compte avec le temps, on a un problème quelque part, va falloir qu'on se penche sur le dossier. 1996, le gouvernement a agi et a ajouté. Parce que dans le code criminel, il y a l'ensemble des infractions, il y a l'ensemble de la procédure, il y a sur quoi un juge doit se baser pour déterminer la peine, etc. Et dans ces principes de détermination de la peine, il y a plein de choses qui sont énumérées. On doit tenir compte des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes. Et il y a un qui existait déjà, qui était le D, là, 718.2D, qui disait qu'avant d'envoyer quelqu'un en prison, le juge avait l'obligation d'explorer toutes les alternatives possibles qui pourraient lui éviter la prison, puis que la prison, finalement, elle devenait le remède ultime.
Okay.
En 1996, on a rajouté « E », qui faisait simplement dire, particulièrement dans des cas d'Autochtones, on doit aller relire « D ». Donc, ça faisait simplement dire, dans les cas d'Autochtones, encore plus, le juge devrait regarder s'il n'y a pas une possibilité de trouver une voie alternative, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est faire réduire le taux de récidive. Ce qu'on veut dans une société qui est sûre, c'est le but des déterminations de la peine, c'est de vivre dans une société juste et sûre. Et pour ça, moins il y a des récidivistes, plus ça fait en sorte que la société est sûre.
La fameuse expression de redevenir un actif pour la société.
Redevenir un actif pour la société. En parallèle à ça, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de programmes alternatifs. Des thérapies, des suivis avec des agentes de probation, des travailleuses sociales, on a ouvert, tu sais, on a essayé de trouver qu'est-ce qui ferait en sorte de réduire le taux de criminalité chez les Autochtones et le taux de récidive. Parce que si la détention était le remède approprié, ben forcément, avec le temps, il y en aurait de moins en moins en prison. Mm-hmm. Et là, le chiffre continue de monter. Fait qu'on s'est rendu compte, c'est certainement pas la prison qui marche. Il va falloir trouver autre chose.
Est-ce qu'on a regardé les statistiques à savoir aussi quand les Autochtones sont libérés, est-ce qu'ils retournent en prison rapidement à l'époque?
Il y avait beaucoup de récidives. Malheureusement, c'est encore le cas. La règle Gladue vient 3 ans plus tard. Donc, la modification législative, il y en a régulièrement dans le code criminel. Puis généralement, ça fait pas des grosses sorties médiatiques parce que, bon, on a voté ça. Puis même nous, les avocats, on l'apprend quasiment à regarder dans le code, ça a été modifié. Il y en a que c'est plus important, donc on l'apprend plus rapidement, mais d'autres cas que ça passe un peu sous le tapis. C'était un peu ça. C'est pour ça que c'est l'arrêt Gladue. L'arrêt Gladue, c'est un arrêt de la Cour suprême, donc c'est une décision qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême dans laquelle, lors de la détermination de la peine d'un Autochtone, on s'était penché ou non sur le fait qu'on devait regarder de façon spécifique le cas des Autochtones dans la détermination de la peine. Et lorsque l'arrêt Gladue était rendu par la Cour suprême, qui ne venait que préciser la modification législative de 1996, ça avait fait une tollée. On est 20 ans plus tard, là, puis c'était la même chose. Le Bloc québécois avait fait des sorties, la radio parlée avait fait des sorties. On disait justement que c'était de la justice à deux vitesses, puis que ça respectait pas les principes d'harmonisation des peines. Exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais la Cour suprême, 13 ans plus tard, dans l'arrêt Aipili, s'est reprononcée sur la question et est venue dire, grosso modo, là, évidemment je paraphrase, « Vous avez rien compris ». On n'a jamais dit que c'était un passe-droit. On n'a jamais dit que ça faisait en sorte que c'était une justice à deux vitesses. Ça ne fait pas en sorte automatiquement que les peines sont moins sévères, même si parfois c'est comme ça que ça va se traduire. Et ce que la Cour suprême dit, très intéressant, il faut aussi faire attention de conclure que une voie alternative est moins punitive que la détention. Je donne un exemple. Si on impose à quelqu'un de suivre une thérapie de 6 mois ou d'avoir un suivi probatoire d'un an, c'est-à-dire 52 rencontres avec une agente de probation, puis de faire 240 heures de travaux communautaires, est-ce que c'est vraiment moins sévère que d'envoyer quelqu'un 30 jours ou 60 jours en prison à rien faire?
Okay.
Tu sais, l'obligation d'avoir des conditions restrictives, de faire des travaux communautaires à 240 heures, c'est 6 semaines à temps plein. C'est beaucoup plus facile pour certains d'aller s'asseoir.
Ce que tu nous dis, c'est que ce rapport Gladue-là permet d'explorer différentes avenues, davantage d'avenues que si c'était un blanc.
Ça dit simplement que le juge doit y accorder une attention particulière aux autres avenues possibles. Et ce que la Cour suprême, encore une fois, est venue nous dire, attention, comme ça n'écarte pas du tout tous les autres principes de détermination de la peine, tous les facteurs aggravants et atténuants qui doivent être pris en considération, ça fait en sorte que, en général, pour les crimes les plus graves, ça revient finalement au même entre un blanc et un autochtone. Parce que là, finalement, les facteurs aggravants vont prendre le dessus sur certains facteurs atténuants puis sur ce fameux critère-là qui existe aussi pour tout le monde, je l'ai dit, au point D. Ça dit qu'avant de se rendre à la détention, le juge ou la juge doit explorer toutes les voies alternatives davantage, de façon plus particulière que les autochtones, mais ça existe aussi. Donc, dans les cas les plus graves, D, c'est-à-dire l'obligation d'explorer les voies alternatives va être écartée, puis on se dit forcément ça va être de la détention, puis voici le quantum. Ça va être la même chose avec les Autochtones. Même dans un rapport Gladue, ça ne fait pas en sorte que forcément on va en arriver à une peine moindre ou moins sévère, même que dans des cas, vu que c'est alternatif, ça peut sembler moins sévère en temps de détention, mais avec le travail à faire sur soi, c'est plus sévère. Et dans d'autres cas, lorsque les cas sont les plus graves, ça va finalement revenir au même parce que les facteurs aggravants vont prendre le dessus.
La grande question dans le dossier qui nous intéresse hier, est-ce que c'est l'arrêt Gladue justement qui a fait en sorte qu'il était déjà libéré?
En fait, non. Si on se reporte la décision du juge Guimond la dernière fois, il a même, je vous dirais, quasiment rejeté l'effet Gladue. Oui, on avait un rapport Gladue. Gladue, il faut le dire, qui porte le nom de l'arrêt de la Cour suprême, c'est que dans plusieurs situations, moi, si j'ai un cas où quelqu'un, justement, il y avait beaucoup de situations X au moment des événements, puis monsieur a fait du cheminement, on est rendu à Y, où il y a beaucoup de particularités, je vais demander ce qu'on appelle un rapport présententiel. Ça, c'est pour n'importe quel de mes clients, autochtones ou non. Un rapport présententiel, c'est qu'il va rencontrer un agent de probation qui va faire un rapport de quelques pages au juge, qui, dans le but de la détermination de la peine, va permettre au juge de connaître l'individu puis de rendre la peine la plus individualisée. Parce qu'il faut le rappeler, une peine, c'est individualisé à chaque personne. On ne sentence pas un crime, on sentence la personne. Ouais. Et dépendamment de l'ensemble des circonstances, ça va varier d'une personne à l'autre. Et donc, le rapport Gladue, c'est la même chose. C'est un rapport présententiel, mais axé sur les réalités autochtones qui permet au juge, dans le cas par cas, de savoir, oui, de façon historique et systémique, mais dans ce cas-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'il a subi dans son enfance, etc., qui pourrait être sous-jacent à la commission des infractions, puis qui pourrait permettre au juge de trouver des pistes de solution. Si c'est dû à des problèmes de consommation, on va tenter de régler ça pour éviter les récidives, etc. Dans ce cas-là, le juge Guimond, dans sa dernière peine, avait dit, c'est bien beau, Gladue, c'est bien beau tout ce que vous avez vécu, mais les risques de récidive sont tellement importants que je vous impose une peine de 3 ans de pénitencier. Et à ce moment-là, c'est par la suite qu'on a retranché le temps qu'il avait fait en détention. Et à ce moment-là, ça a fait en sorte qu'il est resté au provincial. Parce que le résiduel, bien qu'il ait imposé 3 ans, quand on enlevait l'année ou les 13-14 mois...
Et là, c'était à temps et demi, c'est ça?
Non, par l'époque. Oui, probablement qu'il y a eu du temps et demi, dépendamment, ouais. Là, je ne sais pas dans les circonstances, mais on lui a enlevé du temps qui faisait en sorte que sur le 36 mois, on est tombé en bas de 2 ans, puis ça fait qu'il est allé au provincial. Mais le juge n'a pas... comme je l'ai dit, les facteurs aggravants ont pris le dessus puis il a donné quand même une peine importante. La couronne demandait 4 ans.
Donc,
le juge a donné 36 mois. Il n'y a pas ce qu'on pourrait, selon les gens, donner un break en fonction du fait qu'on
a
pas
eu d'effet Gladue dans ce dossier-là.
Bon. Très peu.
Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'un blanc aurait eu la même sentence, on va dire clairement comme ça.
Dans les mêmes circonstances, moi, si j'avais un client qui avait un lourd passé puis qui avait eu des difficultés quand il était jeune, etc., avec un rapport présententiel, on aurait sans doute mis de l'avant les mêmes facteurs atténuants, ceux qu'on trouve, parce qu'il y a dans des cas où les facteurs aggravants sont tellement importants qu'on gratte pour trouver un peu de facteurs atténuants. Mais dans ce cas-ci, quand on se remet dans la décision, puis que même quand on relit l'article, ça ressort, que le juge dit « rapport gladu, oui, réalité autochtone, oui », mais risque de récidive tellement important, ouais, tellement de facteurs aggravants, qui est allé dans une peine quand même assez sévère parce que c'était quand même pas les crimes les plus graves au code criminel qui avaient été commis à l'époque.
Ouais. Hier, on a écouté l'avocat de Jean-Léon Pinette-Hervieux dire « bon, on songe à demander une évaluation psychiatrique ». Et moi, ça m'a fait bondir parce que je me suis dit « mais oui, mais avant qu'il sorte de prison, il n'y a pas d'évaluation psychiatrique ».
La réponse est oui, mais la réponse est non. C'est-à-dire que dans certains cas, lorsque vous passez aux libérations conditionnelles puis vous demandez d'être libéré avant le temps, ben oui, il y a une évaluation sur votre risque de récidive, sur votre dangerosité, c'est quoi votre plan de sortie, c'est quoi, bon, etc., pour savoir est-ce que vous êtes remettable en liberté dans l'attente. Parce que c'est important, hein, on crache beaucoup sur les libérations conditionnelles. Je vous le dis, c'est prouvé de toutes les statistiques, de toutes les études au monde. Les risques de récidive sont moins importants par ceux qui ont, de ceux qui ont passé par les libérations conditionnelles que ceux qui sont simplement libérés au fin de leur peine.
Ah oui?
Parce que là, on apprend à vivre en société, on a des comptes à rendre à nos agents, on a des couvre-feux, on a des conditions. Donc, les libérations conditionnelles, si on veut, on réapprivoise la liberté pour redevenir un actif pour la société. Et les risques de récidive sont amenuisés de cette façon-là. Okay. C'est essentiel dans le but de réhabiliter quelqu'un, de passer par les libérations conditionnelles. La problématique, c'est que dans le cas qui nous occupe, ce que j'ai comme information, c'est qu'il aurait fait ce qu'on appelle son deux tiers. Donc, il y a une libération d'office. Et là, il n'y a pas d'évaluation. Ah, okay. Vous faites votre deux tiers, on ouvre la porte et on vous dit « salut pompon
okay. ».
Et là, c'est un peu là la problématique. Donc, pour répondre à ta question, Richard, il n'y a pas eu d'évaluation. Mais même s'il y en avait eu une, il y a 3 semaines, 1 mois, dans des cas de problématiques de santé mentale ou que ça peut être dû par la consommation, on peut être correct avant-hier, puis être en psychose aujourd'hui, ouais, et vice-versa. Ça aussi, c'est une chose réelle.
Il suffit d'un épisode de consommation pour faire dérailler l'individu.
Surtout dans un cas, là, il est une accusation de meurtre au premier degré. L'intoxication, même l'intoxication volontaire, peut avoir une incidence importante sur la suite des choses, bien que normalement, l'intoxication volontaire, si je suis accusé de voie de fait, je ne peux pas plaider « Ah, oh, c'est parce que j'étais en boisson » ou « Ah, oh, c'est parce que j'avais fait des méthamphétamines ». Ce n'est pas, on ne peut pas plaider ça comme un crime contre la personne, sauf dans le cas du meurtre, ça pourrait venir faire en sorte que ça vient briser l'intention spécifique du meurtre au premier degré. Donc, ça pourrait réduire soit un meurtre deuxième degré ou soit un homicide involontaire.
Est-ce qu'on lui a fait des prises de après les événements, tu
Écoute, évidemment que j'ai pas cette information-là, mais sans doute
mais si on veut déterminer s'il est intoxiqué,
oui, ben c'est sûr que l'intoxication peut être aussi par le témoignage des intervenants, là, des policiers. Là, souvent, ça devient facile de voir si la personne était complètement désorganisée, si on voyait des symptômes de consommation, etc. Et ça, c'est certainement quelque chose qui sera à être exploré parce que entre l'homicide involontaire, le meurtre au deuxième et le meurtre au premier degré, le degré d'intoxication, l'état d'esprit de la personne, tout ça sont des choses à être pris en considération.
Maître Bouliane, c'est toujours un plaisir. Merci pour l'éclairage. C'est très important dans ce dossier-là. Maître Julien Bouliane, on revenait sur le dossier de Jean-Léon Pinette-Hervieux qui a été accusé hier de meurtre prémédité au premier degré d'un homme dont on ne peut plus nommer le nom puisqu'il y a un interdit de publication. Au retour, on discute avec notre ami Dominique Fortin.
Je le stole coupable! Celui qui a fait le coup, je me dis, moi! Allez, allez, là, monsieur le commissaire, maintenant, il va nous faire le coup du type qui se rappelle de rien, là!
Toi, je t'interdis de publier des salades dans ton canard de merde jusqu'à ce que le procès soit terminé.
Walking, walking, on a tightrope of insanity. Walking, walking, on the verge of losing mind.
Non coupable, pour cause d'aliénation mentale.